Donc des matériaux organiques apparaissent assez rapidement. Vous mettez un certain nombre de gaz contenant du carbone, de l'azote, etc. Vous faites des décharges électriques, vous chauffez et rapidement vous avez tous les acides aminés. Donc on pourrait se dire la vie élémentaire surgit pratiquement n'importe où, là où il y a une source énergétique. Hein, d'ailleurs, vous avez des formes de vie qui, pas nécessairement liées à l'oxygène, d'ailleurs, dans les fonds sous-marins. Hein, donc, vous avez des oasis. Je me rappelle que Xavier Le Pichon, qui est professeur du Collège de France, mais qui est aussi qui a un jour accosté en Inde et qui a rencontré Mère Teresa de Calcutta, qui a pratiquement s'est converti et est devenu le bras droit de Jean Vanier, toujours aujourd'hui. Mais c'est un des grands géologues, puisque c'est lui qui a validé la théorie de la tectonique des plaques. C'est lui le premier qui a vu les plaques s'écarter et a vérifié la théorie du mouvement des plaques tectoniques. Donc il est descendu en bathyscaphe, donc à 5000, 6000 mètres, et il m'a raconté un jour l'extraordinaire enfin, spectacle de ces oasis à plus de 4000 mètres de fond, dans lequel vous avez une faune et une flore qui se développent sur les fumeurs noires, donc sur cette matière qui sort du cœur de la Terre et qui, évidemment, fonctionne non pas avec de la lumière ou avec de l'oxygène, mais fonctionne avec d'autres sources énergétiques. Bon, vous avez des formes de vie qui se développent là, mais vous avez à 4000 mètres de fond sur le Titanic, il y a plein de bactéries. Les bactéries ont rongé le Titanic. Vous avez des bactéries plein de Tchernobyl. Hein, qui résistent à des doses de radiation de plus de 300 fois ce que vous pouvez, enfin, vous pouvez recevoir. En fait, il y a une bactérie qui s'appelle Radio-Durans qui peut résister à 300 fois l'irradiation, oui, 300 fois la dose mortelle de l'homme, si vous voulez, qui tuerait un homme. Et donc, vous avez des bactéries dans les solfatares en Italie, donc approchant 100 degrés, vous avez des bactéries qui se nourrissent d'acide sulfurique et nitrique, donc vous mettez de l'acide, plus vous mettez d'acide, plus elles sont contentes, etc. Donc la vie bactérienne est une vie qui probablement se développe, je ne dis pas partout, mais dans beaucoup de sites de l'univers. Seulement, et ça c'est important, la vie telle que nous la connaissons avec l'homme, c'est beaucoup plus compliqué parce que la vie humaine est le produit d'une évolution lente qui a mis à peu près 3,8 milliards d'années. Et je vous disais, il faut qu'on trouve, pour faire ce genre de vie-là, des sites stables pendant plusieurs milliards d'années. Or ça, en général, dans le cosmos, les sites planétaires ou les sites cosmologiques sont en général bombardés intensément. Et il faut qu'il soit quelque part protégé pendant de longues et longues années, des milliards d'années. Et ça, c'est assez rare. Donc, quand on peut faire des calculs statistiques, on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça de maintenir des sites pendant 4 milliards d'années favorables, parce qu'il faut que vous mainteniez une proximité à l'étoile pour avoir, mais ni trop près ni trop loin, trop près trop chaud, trop loin trop froid. Il vous faut une atmosphère qui se maintienne. Or ça, c'est pas évident. Je vous ai dit, avec Mars, l'atmosphère a disparu. Il faut donc une protection contre les rayons cosmiques. Il faut une stabilité des climats. Et ça, c'est difficile pendant des milliards d'années. Rien que la stabilité climatique sur Terre, je vous l'avais dit, est liée au fait que l'axe de la Terre est fixe. Est fixé, il bouge un peu, évidemment, il tourne en 26 000 ans, je crois, et il vibre un petit peu. Mais il est en gros tenu dans sa position oblique. D'accord? Par quoi? Par la Lune. Mais s'il n'y avait pas ce blocage que la Lune entraîne, eh bien, l'axe de la Terre balancerait et on n'aurait plus de stabilité climatique. Donc, ce serait beaucoup plus difficile pendant de longues périodes de développer des formes de vie relativement complexes. Donc, sur les 100 milliards fois 100 milliards d'étoiles, toutes ces étoiles ne conviennent pas pour faire des sites qui pourraient abriter des vies complexes développées sur 3,8 milliards d'années. Des simulations ont montré que, de toute façon, il y a déjà la moitié des étoiles qui tombent parce que la plupart des étoiles sont des étoiles doubles. Et quand on a une étoile double, c'est-à-dire ce sont des étoiles qui sont couplées l'une à l'autre par la gravitation, et quand les étoiles doubles sont trop proches, il n'y a pas de système planétaire qui peut facilement se développer, etc. Donc la moitié des étoiles du cosmos sont en général des étoiles doubles, donc elles ne conviennent pas. Et puis alors vous mettez toutes les contraintes qu'il faut pour faire de la vie, et puis de la vie complexe, etc. Les simulations montrent qu'il n'y a, il ne reste pas grand-chose comme... Je me souviens d'une simulation, je pense, que d'un astronome de Meudon, à Paris, astronome, l'Observatoire de Paris, qui avait montré que sur 100 milliards, fois 100 milliards d'étoiles, on pourrait conserver à peu près 4 sites compatibles avec une vie se développant pendant 3 milliards d'années, 4 milliards d'années. Maintenant, on a découvert des tas d'exoplanètes, on est probablement maintenant à 600 exoplanètes, donc des planètes qui pourraient héberger, enfin, un peu comme la Terre, un peu plus grosse, mais qui pourrait héberger la Terre, probablement qu'il y a de la vie sur ces planètes. C'est pratiquement une certitude que l'on va trouver la vie sur ces planètes, mais la vie évoluée, la vie telle que nous la connaissons, ça c'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs. D'ailleurs, Mono était très dogmatique quand il disait « nous savons désormais que nous sommes seuls ». Nous n'en savons rien, la science n'en sait rien. Elle ne peut pas répondre à la question. Hein, seulement, ce qu'elle peut dire, c'est qu'en tout cas, les contraintes pour faire une vie comme la nôtre, c'est très très compliqué. Les formes de vie, c'est très facile, élémentaires, c'est très facile, mais les formes de vie complexes, c'est vraiment autre chose. Bon. Dans l'état actuel des connaissances, on n'en sait pas plus, on sait seulement qu'il y a des sites qui sont compatibles avec de la vie élémentaire. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas tellement cette exobiologie fiction, éventuellement, ou cette exobiologie sérieuse, etc. Mais c'est plutôt le fait que la vie est chez elle dans l'univers. Et que, dans le fond, si nous partons du point de vue théologique, en se disant, tiens, Dieu voulait un monde pour qui émergent des créatures libres, et qui dit libre, dit capacité de décision, donc dit un certain degré de complexité aussi, etc., eh bien, il fallait qu'il mette dans l'univers les conditions pour que ça puisse émerger. Alors, on pourrait très bien se retrouver devant une science qui nous dise, non, la vie n'est pas du tout liée à la structure de l'univers, etc., et c'est vraiment un épiphénomène. Eh bien, non, c'est pas ce que nous trouvons. On voit que la vie est homogène à cet univers. Et ça, philosophiquement, c'est très intéressant. Oui. Bon, alors, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, donc, je pourrais résumer ce que je viens de dire par ceci, hein, c'est, vous voyez, nous avons montré cette histoire de la matière et cette unité, et ce que je viens de dire maintenant, c'est ce cosmos possède des conditions nécessaires, donc des conditions nécessaire pour l'émergence de la vie. Et c'est ce qu'on appelle des conditions biotiques ou anthropiques quand il s'agit de l'homme. C'est-à-dire, on regarde toutes les conditions nécessaires pour l'émergence de la vie. Et puis on étudie la stabilité de ces conditions, la stabilité du phénomène vivant sous la variation de ces conditions. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conditions biotiques ou anthropiques. Donc, anthropos, hein, l'homme. Donc, en fait, on détermine toutes les conditions. Par exemple, pour qu'il y ait la vie, il faut un certain nombre de fonctions complexes. Pour faire ces fonctions complexes, il faut des structures moléculaires, par exemple, qui aient certaines propriétés. Ces structures moléculaires nécessitent, entre autres, l'existence du carbone. Et donc, une des conditions nécessaires, c'est le carbone. Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir du carbone? C'est ceci et cela. Et on modifie les conditions pour avoir du carbone et on voit si la vie continue d'exister ou non. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, c'est un champ de recherche autour de ces conditions-là qui est extrêmement intéressant. Maintenant, le scientifique ne démontre pas que la vie devait exister. Il faut faire bien attention, hein. Donc, ce que fait le scientifique, il se dit, si la vie existe, alors il y a des conditions. Et si on modifie ces conditions, la vie n'existe plus. D'accord ? Mais il ne dit pas les conditions étaient telles que la vie devait nécessairement exister. Vous voyez la différence logique, hein ? condition nécessaire, mais pas condition suffisante. Donc, je recherche, si la vie existe, alors il y a des conditions. Et je recherche les variations de ces conditions et je vois que la vie disparaît. Ça c'est la, on pourrait dire, la direction du raisonnement scientifique. Maintenant, toute autre chose est de sauter de cela à la vie devait nécessairement apparaître parce qu'il y a telle condition. Ça, c'est retourner l'implication. Alors, c'est légitime d'un point de vue philosophique de se dire, ben oui, effectivement, si Dieu voulait, alors les conditions devaient être là. Mais la science, elle, ne dit pas ça. Vous voyez ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de ne pas mêler les deux, mais d'une certaine manière, de réaliser ce que je disais hier, une sorte d'herméneutique des conditions anthropiques. La science nous montre certaines conditions de l'émergence de la vie et nous dit que ces conditions sont d'une certaine manière très strictes, parce que si je les modifie un petit peu, la vie disparaît. Ça, c'est ce que la science dit. Maintenant, comment peut-on interpréter ça, herméneutique de la nature, si vous voulez ? Eh bien, on pourrait interpréter ça en disant, il n'est pas impossible de suggérer que peut-être ces conditions sont là pour que la vie apparaisse. Mais en faisant ça, j'ai interprété et retourné l'implication logique, et donc je ne suis plus dans le champ strictement scientifique, je suis dans l'interprétation philosophique d'un certain nombre de résultats scientifiques. D'accord ? Donc c'est très important, et là on voit bien la distinction qu'il y a entre la méthodologie scientifique et l'interprétation philosophique. Et maintenant, le point de vue théologique peut bien sûr amener un surcroît d'intelligibilité à cette interprétation philosophique. Et le philosophe dira, on peut peut-être interpréter ces conditions en disant, il y a peut-être une finalité à l'œuvre dans l'univers. Et le théologien dira, mais oui, cette finalité, c'est le projet de Dieu dans sa création. Et vous voyez que la démarche scientifique n'est pas strictement identique à ce que fait le philosophe et le théologien. Puisque le scientifique ne dirait jamais, les conditions sont là pour que la vie apparaisse. Parce qu'en disant pour, il établit un projet que lui-même ne peut pas contrôler. Ce que le scientifique peut contrôler, c'est l'existence de conditions. Mais il ne peut pas contrôler l'existence d'une finalité globale. Ça peut être dégagé dans une démarche d'interprétation philosophique qui est cohérente avec les données scientifiques, mais on est à un autre niveau. Vous voyez ? Et c'est ça l'articulation. Distinguer, mais pour unir par une herméneutique philosophique. D'accord ? Bien.